parole du jour avec le Père Willem.
Résurrection aujourd'hui. Depuis l'aube de l'humanité, l'être humain rêve d'immortalité. La plus ancienne épopée, celle de Gilgamesh, en atteste déjà la puissante aspiration. Aujourd'hui, plus que jamais, nous en formulons les possibles et nous voulons y croire. Les progrès en biogénétique ne nous laissent-ils pas entrevoir de folles espérances ? Cellules à tout faire, les cellules souches ne nourrissent-ils pas une dynamique porteuse de perspectives jugées jusque-là impensables ? Nos rêves pour demain, reculer les bancs du vieillissement, substituer à des organes programmés pour 80-90 ans des compositions cellulaires rajeunies, régénérer nos neurones et maîtriser les circuits complexes qui les connectent pour parvenir à conserver toutes les données de notre mémoire, de notre intelligence, ainsi renouvelées à l'infini. Envisager de devenir les maîtres du temps. Tout cela est évidemment très tentant. Mais est-ce le fruit d'une attente fondée ou le produit de l'effet trompeur de phénomènes virtuels que nous prenons pour des réalités déjà conquises? On peut comprendre cet enthousiasme. Il n'est pas loin d'un autre qui a déjà engendré son mythe, celui du progrès. Mais depuis les Lumières, qui en avaient déclenché les feux, depuis l'avènement des étincelles technologiques qui ont semblé confirmer 1000 promesses, on en est revenu et ce sont les sciences elles-mêmes en lesquelles on avait tellement cru qui se sont chargées d'ôter aux infatigables rêveurs que nous sommes bien des illusions. Non, le progrès de l'humanité n'est pas infini et nous demeurons mortels et finis. Malgré l'invention des vaccins, des découvertes du code génétique, des particules atomiques, de l'informatique, des nanotechnologies et des technologies toujours plus performantes, nous reculons certaines bornes. Nous vivons plus longtemps et mieux, certes, mais nous ne changeons pas de nature et nous sommes toujours des êtres de chair et de sang dont le corps est décomposable, voué à terminer sa course à l'état de poussière. Nous pourrons probablement repousser quelque part l'échéance de la mort en éradiquant mieux les causes de graves maladies. Nous évoluerons au cœur des limites inhérentes à notre condition, certes, mais la cure de jouvence cellulaire n'aura pas d'effet miraculeux. Et si les biotechnologies peuvent améliorer nos capacités physiques et mentales, elles ne pourront pas nous faire vivre 1000 ans comme le prophétise le mouvement transhumaniste qui cherche à nous en persuader à grand renfort de promesses battues en brèche par une majorité de scientifiques pondérés et lucides qui approuvent volontiers cette maxime attribuée à l'ingénieur en informatique américain Gagan Garapu. Il faut ajouter de la vie à nos jours et non pas des jours à la vie. Ce que confirme sans restriction Karl-Heinz Krause, professeur de médecine. Notre tâche n'est pas de prolonger la durée de vie d'un être humain, mais de nous assurer que la qualité de cette vie soit la meilleure possible. À ceux qui s'acharnent à vouloir repousser à tout prix les limites de la longévité, ils n'hésitent pas à répondre. D'un point de vue éthique, ce n'est pas souhaitable, et d'un point de vue technique, actuellement, ce n'est pas faisable. Quoi qu'il en soit du rêve persistant d'immortalité qui paraît indéracinable et ne manquera pas de se développer avec plus d'ampleur encore dans les décennies à venir, la résurrection n'est à confondre ni avec ce rêve, ni avec la question de l'immortalité. Nous en avons assez dit sur cette distinction essentielle. Mais nous ne le répéterons jamais assez, la résurrection est d'un autre ordre, et nous n'en mesurons toujours pas la radicale nouveauté et l'insondable profondeur. Même, et parfois surtout chez les chrétiens eux-mêmes, sans compter tous ceux qui la confondent avec la réincarnation. La résurrection est bien la seule manifestation plénière de la vie qui nous a été offerte comme gage de la finalité de notre condition charnelle et spirituelle. Si Dieu a créé l'homme et l'a voulu à son image, nous ne pouvons la voir que dans le visage du ressuscité. Or faut-il, oui, encore faut-il le reconnaître dans la manifestation de sa visibilité comme dans son invisibilité, visibilité de sa chair comme lieu de son incarnation, invisibilité de la vie qu'il habite depuis toujours et pour toujours, parce que sa résurrection en est la manifestation toute puissante et entière. Manifestation d'un pouvoir dont nous n'aurions pu croire la réalité s'il n'avait pas surgi de la mort retournée contre elle-même, de cette chair transfigurée devant ses témoins qui nous ont toujours transmis la vertigineuse révélation. Vertigineuse parce que si nous faisons le choix d'y adhérer, ce ne peut être que par la vertu d'un sceau, oui, un sceau à consentir, sceau nécessaire, dans la mesure où il nous engage à reconnaître une toute-puissance qui nous dépasse. La toute-puissance qui nous pose dans la vie en rompant radicalement avec les chaînes qui font de nous des êtres voués à la mort. Oui, voués à la mort. Et cette rupture-là, est un défi à la loi de nature la plus profondément ancrée dans notre conviction, celle du caractère irréversible de notre mortalité. Du fait de sa finitude, nul d'entre nous n'a jamais eu et n'aura jamais le pouvoir de revenir de la mort, raison pour laquelle nous ne pouvons que nous en remettre à celui-là qui en est revenu parce qu'il est ressuscité. Ce saut dans la foi, puisqu'il faut bien l'appeler ainsi, est d'autant plus difficile qu'il suppose la perception de la manifestation invisible de la vie. Mais puisque nous portons tous en nous cette vie invisible qui nous habite au plus intime de nous-mêmes, de notre intimité, nous pouvons, descendant jusqu'aux racines les plus profondes de notre intériorité, reconnaître qu'en ce lieu seul peut se réaliser l'accueil de celui dont le souffle de vie invisible a en effet le pouvoir de transfigurer notre chair mortelle, parce qu'il l'a déjà accompli. Il nous laisse donc avec notre liberté entière devant ce mystère, et ce saut dans la foi se trouve de surcroît conforté par l'espérance, espérance que le Christ accomplira un jour en nous ce qu'il a pleinement accompli en lui-même, ce fut et c'est toujours sa promesse.